Bon, ben, je vais peut-être attaquer en commençant, alors ce matin, par vous montrer un petit peu le contexte, la situation de l'enseignement des mathématiques dans le pays, au niveau international peut-être aussi, mais bon, surtout dans le pays. Voilà, alors, un plan en trois parties, parce qu'en France on aime bien en trois parties. Voilà. Alors donc, tout d'abord, quelques indicateurs. Alors, si vous voulez, on a une batterie d'indicateurs, aussi bien quantitatifs et qualitatifs, sur l'état de l'enseignement des mathématiques dans le pays. Bon, ce sont des indicateurs. Ils veulent donc dire quelque chose. Il faut toujours les prendre avec un peu de recul, de toute manière. Mais ils indiquent, en tant qu'indicateurs, quand même des tendances générales assez lourdes. Et peut-être que c'est cette prise en compte de cette tendance lourde qui a motivé ce plan stratégique pour les mathématiques. Bon, pour le moment, on a les grandes lignes, on n'a pas encore la traduction concrète, il faut quand même un petit peu de temps. On verra ce qu'il en deviendra, ce qu'il en adviendra. Donc, d'abord, des indicateurs en France et ailleurs. Et puis quelques explications qui sont avancées pour justifier et comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis là, j'ai rajouté un exemple d'activité qui vous montre un petit peu, bon, qui me semble assez révélateur de la manière dont on enseigne les mathématiques. Alors, comme tout un chacun le sait, on a l'indicateur PISA. Alors, PISA 2012, bon, vous savez que PISA, c'est tous les 3 ans, et ça teste les élèves au niveau à l'âge de 15 ans à peu près. Donc, grosso modo, c'est des élèves qui sont en seconde, et pour ce qui concerne la France, et dans une liste de pays qui sont les pays de l'OCDE qui veulent bien participer à PISA. Alors, en 2012, donc, il y a trois disciplines. Il y a, alors, ce qui s'appelle PISA test, ce qu'ils appellent la literacy, literacy in English. Et c'est quoi? C'est les compétences ou les connaissances mathématiques pour résoudre des problèmes. On ne sait pas très bien, le terme, la traduction française du terme literacy. Mais disons, grosso modo, le rapport aux mathématiques. Ce que les élèves savent et ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent, grosso modo. En mathématiques, donc, en langue maternelle, donc le français, littérature, et en sciences. Dans le terme science, il y a biologie, physique, chimie, peut-être un peu technologie aussi. Et tous les 3 ans, chaque fois, il y a une dominante. Et donc, la dominante PISA 2012, c'était justement les mathématiques. Donc, c'est assez intéressant. La précédente dominante, c'était 2003, puisque ça a lieu on tourne tous les 3 ans. Voilà. Alors, là, j'ai coché le score de la France. Alors, il faut prendre quand même avec des pincettes certains résultats, parce que vous voyez ici, la Chine, vous savez que Shanghai et Hong Kong, hein, d'accord? Bon, ici, Taipei, d'accord, Macao aussi. Si on prenait toute la Chine avec ses 1,3 milliard ou 400 millions d'habitants, avec la province chinoise, les paysans pauvres, etc., peut-être que les chiffres seraient différents. Mais bon, ça donne quand même des indications. Alors, quelles indications ça donne? Ben, vous voyez ici le score moyen lors de l'évaluation PISA de 2012, pardon. C'est pour la France 499, donc c'est codé, et puis on fait un total, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on recule, enfin intéressant, c'est qu'on recule de 1,5 point par rapport à la précédente. Alors, donc la précédente était celle de 2009, qui n'était pas dominante mathématique, comme chacun sait. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir de cela, bon, la moyenne de l'OCDE, c'est 500, hein, donc on est légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Bon, ce qui est quand même assez inquiétant pour un pays qui est la cinquième ou quatrième ou sixième puissance au niveau du PIB mondial. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le score de la France est inférieur de 16 points à celui qu'elle obtenait en 2003. où il y avait eu les dominantes mathématiques. Bon, on était à 511 en 2003, et à ce moment-là, on était supérieur à la moyenne de l'OCDE, qui est toujours 500. Bon, voilà. Donc là, on est passé en dessous. Alors, ça, évidemment, ça alerte pas mal les responsables des systèmes éducatifs. Ça avait alerté fortement en Allemagne en 2003, où l'Allemagne n'avait pas des résultats à la hauteur de l'investissement éducatif dans le pays. Et donc, il y a eu un gros effort au niveau de l'enseignement qui a été fait en Allemagne. Donc, ce sont des indicateurs qui vont influer, dont les politiques vont tenir compte et qui vont ensuite influer sur les politiques éducatives dans les pays. Alors ici, j'ai pris l'état de l'école 2014, qui est publié chaque année par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ce que l'on voit est beaucoup plus parlant encore. Alors, ce que l'on voit ici, vous avez donc PISA 2003 qui est en
violet,
ouais, ça sort comme ça, et PISA 2012 qui est en
jaune,
ouais, jaune-vert par là. Bien, alors, dans PISA, on classe les élèves en fonction des niveaux. Donc, il y a 6 niveaux, et donc du plus faible au meilleur, hein, pour parler rapidement, au niveau le plus élevé. Et il suffit de regarder le graphique pour voir que, jusqu'ici, c'est-à-dire niveau 2, qui sont les niveaux des plus faibles, le nombre d'élèves qui se trouvent dans les niveaux du plus faible augmente pour chacun des niveaux faibles de l'évaluation PISA 2003. Et évidemment, le nombre d'élèves qui obtiennent de bons résultats baisse par rapport à l'évaluation 2003. Bon. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est dessous, là. C'est le commentaire, je vous le lis. Les élèves sont répartis selon leur score en 7 niveaux de compétences. Oui, parce qu'il y a un niveau inférieur à 1, donc je n'avais pas vu. Donc 7 niveaux. En 2012 en France, 8,7% des élèves âgés de 15 ans se situent au niveau inférieur à 1. Bon, c'est donc des pourcentages que l'on a ici. C'est-à-dire peu performants. Et 3,1% au niveau 6, très performants. Les données figurant sur le graphique sont des chiffres arrondis, champ France métropolitaine plus DOM, sauf la Réunion, public-privé sous contrat. Bon, donc on a à peu près toute la population, un échantillon représentatif de la population scolaire française. Donc, entre 2003 et 2012, on observe en France une nette évolution de la répartition des élèves aux 7 niveaux de compétences en mathématiques qui correspond à un glissement de la population vers les niveaux inférieurs. Donc la part des élèves en difficulté, on les considère sous le niveau 2, augmente d'un tiers. C'est quand même assez important. Elle passe de 16,6% à 22,4%. Alors que sur la même période, cette part évolue peu en moyenne pour les 29 pays de l'OCDE qui ont participé à l'enquête PISA. Bon, et donc, d'autre part, la France fait partie des pays qui affichent la plus forte augmentation de la proportion d'élèves les plus performants, d'élèves au niveau inférieur. Donc, par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est la France qui obtient la plus forte augmentation des élèves les moins performants. En revanche, on voit que les élèves les plus performants baissent, ceux de niveau 5 et au-dessus, même si cette baisse n'est pas, nous dit le document, statistiquement significative. Bon, elle passe de 15,1% à 12,9%. Alors, ce qui est encore inquiétant, là, c'est encore un extrait du même document, l'état de l'école 2014. Donc, c'est les commentaires de l'état de l'école. Vous voyez ici, on a la répartition par quartile des élèves, alors en France, au CDE, et on a la comparaison entre 2003 et 2012, comme c'est la base représentative. Alors, ce qu'on voit donc, alors il faut lire, lecture, en 2012, 25% des élèves français obtiennent un score inférieur à 429. Donc c'est le premier quartile ici. Voilà. Donc, on voit qu'on a baissé par rapport à PISA 2003, où il y avait le premier quartile était à 449. Donc, on a perdu 20 points. Voilà, l'écart interquartile passe de 126 points à 136 points, alors qu'il ne varie pas en moyenne dans les pays de l'OCDE, nous dit le document. De tous les pays de l'OCDE, la France est celui où la performance en culture mathématique, la littératie, comme dit PISA, est la plus fortement liée au statut économique, social et culturel. C'est ce fameux SESC. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas recherché, mais il faudrait rechercher sur la base de l'INSEE à quoi il correspond, sans doute aux revenus peut-être des parents, hein, puisqu'il s'agit d'élèves, là. Et donc, ce document nous dit que l'écart de score associé en France à la variation d'une unité de cet indice, là, il faudrait voir ce que c'est, est de 57 points en 2012, alors qu'il est de 39 points en moyenne pour l'OCDE. Donc, on a des écarts encore plus marqués selon, l'origine socioculturelle des familles. Et il a augmenté de 14 points, on le voit ici, depuis 2003 pour la France. Et cet état de l'école nous dit que la France est le pays de l'OCDE où cette augmentation a été la plus importante. Bon, donc, le tableau n'est pas très brillant quand on regarde PISA. Alors PISA, on peut le critiquer, bien entendu, moi le premier. Pourquoi ?
Ben, parce que, par exemple, on teste très peu en géométrie. Or, on sait qu'en France, on a encore
un enseignement de la géométrie, disons synthétique, assez important. Et si vous regardez les évaluations PISA,
qui sont libérées, puisqu'il y en a une partie qui n'est pas publique, il y a peu de géométrie là-dedans. Bon, ce que l'on voit aussi, c'est que les élèves français, alors il y a une espèce de culture de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques, soit ils savent pas, c'est-à-dire qu'ils testent pas, contrairement aux élèves d'autres pays qui tentent, face à un problème, qui tentent des démarches d'attaque du problème, etc. Ben là, peut-être qu'ils tentent au brouillon, mais en tout cas, ils ne le notent pas sur les évaluations PISA. Donc, il y a des caractéristiques, disons, nationales qui vont jouer. Mais ce qui, si vous voulez, c'est pas parce que le thermomètre est faux qu'il ne donne pas d'indication. Quand on regarde les variations du thermomètre, et là, entre 2003 et 2012, les variations sont quand même relativement inquiétantes. Alors, on a d'autres indicateurs. On a CEDRE. Alors, CEDRE, c'est une évaluation qui est faite par la DEP, donc qui est française, au niveau du ministère. On ne connaît pas les items qui sont évalués. Et en 2008, là aussi, il y a des dominantes, si vous voulez. Je crois que cette année ou l'an dernier, c'était Histoire-Géo qu'on testait. C'était les compétences, les connaissances des élèves en Histoire-Géographie. Mais en 2008, on testait en mathématiques. Donc, c'est les dernières statistiques que l'on a, même si elles sont un peu vieilles, mais enfin. Bon, alors, ici, on a les compétences en mathématiques des élèves en fin d'école primaire en 2008, selon les caractéristiques sociodémographiques et scolaires. Bon, alors, vous avez toute une batterie de... Ben, ça y est, j'ai perdu la souris. Serge, au secours. Vous la voyez, vous ?
Ouais, mais moi je la vois plus. Bon, c'est pas grave.
Alors, j'ai quand même mis des flèches.
Alors, comme toujours, je sais pas pourquoi la souris je la vois plus à l'écran, Serge. Bon, si tu peux faire quelque chose. Serge est très fort en informatique. Dès qu'on a un problème, il règle tous les problèmes. Il m'a réparé un ordinateur qui était planté depuis un moment. Bon, enfin bref. Alors, on a répartition en 6 groupes.
Toujours pareil, 0,
vous vous doutez que c'est les élèves les plus faibles qui soient. Et puis 5, c'est les élèves les plus performants. Alors, l'ensemble, donc la flèche qui est à gauche, là j'y vois plus rien. Là, voilà. L'ensemble, alors, ce que me disait Jean-François Chesnay, qui s'occupe à la DEP de l'évaluation CEDRE, c'est que, disons, au niveau 0, 1, ou deux, au groupe 0, 1 ou 2, c'est-à-dire le rouge un peu plus clair et puis l'orange, là, on arrive au-dessus de 40%. Ça, ce sont les élèves qui ne possèdent pas les bases mathématiques qui leur permettront de suivre avec profit l'enseignement des mathématiques au niveau supérieur. Ouais, je vois pas grand-chose de mieux, là.
tu...
Bon, la souris, elle, c'est pas grave. Le pointeur a disparu, mais c'est pas grave. Je peux faire sans. Moi, je vais naviguer avec le, en passant comme ça. Bien. Alors, donc, à la fin de l'école primaire, à la fin du collège, Zef de fin de collège, en 2008, Yana, donc en troisième, Yana, à peu près 44%, qui n'ont pas les bases mathématiques, ils vont leur permettre de suivre les mathématiques de seconde, que ce soit générale ou professionnelle. Alors, ce que l'on voit, bien entendu, c'est que... Alors bon, ça je me balade, mais je ne le vois pas. Alors, en ZEP, vous voyez que là, ça monte à un niveau absolument extraordinaire, puisque là, en ZEP, on est entre 60 et 70%, hein, à peu près, d'élèves qui sortent de 3e de ZEP et qui n'ont pas les bases qui permettront de suivre, etc., en seconde. Et puis, on a les élèves aussi qui sont en retard. Donc, c'est la flèche ici, là, c'est cette colonne. Et bon, ils sont à peu près au même niveau, 65%, qui n'ont pas les bases qui permettent de suivre. Voilà, voilà un petit peu un état de l'école. Hein. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ouais, ben, c'est le collège. Ah, ben, évidemment... Voilà. C'est le collège. Mais quand on regarde à l'école primaire, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, ce collège qu'on dit être le maillon faible du système éducatif, en mathématiques, la moins-value qu'il apporte, elle est pas terrible. Hein, puisqu'on passe, regardez, au niveau général de l'ensemble, on est à peu près à 40% en fin de CM2 et 44% en fin de 3e. Finalement, bon... Voilà, ça va rassurer les profs de collège présents ici. Par contre, ben, on a déjà ce phénomène-là, c'est-à-dire que quand on vient de ZEP, eh bien, pour, j'arrive pas bien à lire, mais pour, on est au-dessus de 50, là. Hein, d'accord. 50 plus de 50% des élèves qui sortent d'école primaire de ZEP vont avoir du mal à suivre au collège. Et si on est en retard, alors là, ça grimpe encore plus. Puisque on est à plus de 70%. Si on a redoublé en primaire, eh ben on va avoir énormément de mal à suivre en collège par la suite. Bien, alors, je vous dis, là, c'est les indicateurs. Hein, ça, c'est pour vous rendre morose. Hein, voilà. Vous allez voir, ça continue, hein, comme ça. Voilà. Alors, donc, ça, c'était Cèdre. Donc, c'est français, c'est pas PISA, c'est bien calibré. Sur les connaissances des programmes français. Alors, ensuite, bon, en 2007, était sorti un rapport qu'on a appelé Rocard, du nom de l'ancien ministre, parce qu'à ce moment-là, il devait être député européen, et la Commission européenne avait chargé Michel Rocard de mettre en place un groupe qui allait travailler sur l'enseignement des mathématiques et des sciences au niveau de l'Europe. Et donc, voilà le document qui est sorti de cela, qui s'appelle « L'enseignement scientifique aujourd'hui, une pédagogie renouvelée pour l'avenir de l'Europe ». Autrement dit, bon, ces choses-là, on les connaît déjà depuis presque une décennie, quoi, hein, 2007. Donc, c'est une enquête qui a été faite en 2006, à peu près. On est en 2015. Et que disait-il ? Alors, il y avait Rocard, qui était donc le président, qui est un Français, il y avait un Hongrois, il y avait un Norvégien, il y avait un Allemand, il y avait un Suédois, et il y avait Valérie Aymaud, qui était rapporteur pour l'OCDE. Alors, le constat qu'il dressait, ben, vous l'avez sous les yeux, ces dernières années, de nombreuses études ont mis en évidence un déclin inquiétant de l'intérêt des jeunes pour les études scientifiques et mathématiques. Alors, comment mesure-t-on l'intérêt ? Ça, on ne sait pas trop. Malgré les nombreux projets et programmes d'action mis en œuvre pour inverser cette tendance, les signes d'amélioration demeurent modestes. Bon. Alors, comment on mesure l'intérêt ? Ça, je ne sais pas trop. Bon, il y a des études qui ont été faites sur le nombre d'étudiants qui suivent des études mathématiques. Bon, c'est vrai qu'à l'université, ça a baissé. Bon, et donc, si parmi vous, il y a des universitaires, c'est vrai que... Au niveau de la licence 3 ou même du master 1,
en mathématiques, il n'y a pas beaucoup de monde et ça se traduit aussi par le vivier des
étudiants qui se présentent au CAPES de mathématiques. Et vous savez que chaque année,
depuis quelque temps,
eh bien, on n'arrive pas à pourvoir tous les postes qui sont mis au concours du CAPES de mathématiques. Bon. Mais quand on regarde ensuite les filières dans lesquelles on enseigne et on étudie les mathématiques, on a un développement extrêmement important des classes prépa. Bon, moi, quand j'étais étudiant, il y avait, dans l'Académie d'Aix-Marseille, il n'y avait que deux maths sup, vous voyez, bon, il y a une à Marseille et une à Aix.
Bon, maintenant, il y en a beaucoup plus, hein, voilà, il y a une explosion, il y a les IUT qui se sont développés aussi, dans lesquels on fait des mathématiques, il y a les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc.
Bref, quand on prend l'ensemble, il n'y a pas une baisse significative du nombre d'étudiants qui vont étudier des mathématiques. Il y a une baisse à l'université, c'est certain. Voilà. Alors, l'intérêt, ça, bon, ça reste à voir. Alors, on va parcourir un petit peu, assez rapidement, ce rapport au CAR. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, et d'abord, il s'inquiète. Il s'inquiète parce qu'il nous dit que
on n'inverse pas la tendance,
la capacité à long terme d'innovation de l'Europe va en souffrir.
Parce qu'on a toujours besoin de scientifiques, ainsi que la qualité de sa recherche. Bon, alors, en mathématiques, on est dans une contradiction flagrante, puisque Cédric Villani, l'autre jour, disait que on a une très bonne école de mathématiques avec des médailles Field quasiment à chaque coup, qu'on a une très bonne recherche, alors lui il dit en pédagogie des mathématiques, bon nous on préfère dire en didactique des mathématiques, bon vous avez compris qu'on est tous didacticiens ici, mais les résultats des élèves sont pas bons. Voilà, et il décline. Alors, il va falloir prendre des mesures et essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Voilà. Bon, et alors, chose intéressante qu'il dit, ce rapport au CAR, il apparaît que l'origine du déclin d'intérêt pour les études scientifiques réside en grande partie dans la façon dont les sciences sont enseignées. Dans les écoles, bon, école étant pris au sens large, l'accent sera mis sur les méthodes d'enseignement. Et donc, il va préconiser, justement, un changement dans la manière d'enseigner les sciences et les mathématiques. Hein, on fait un paquet global. Sciences, mathématiques, c'est la même chose. Et donc, alors, ici, j'ai repris. Une grave menace, c'est l'observation. Cette situation trouve ses origines dans la façon dont la science est enseignée. De nombreuses initiatives en cours en Europe, contribue au renouveau de l'enseignement des sciences. Alors lesquels, vous allez voir qu'ils préconisent ce qu'on va appeler la démarche d'investigation, qui est la traduction française, l'inquiry-based science education, donc l'enseignement des sciences par la démarche d'enquête, hein, dans la traduction. Oui, je vois qu'il y en a qui sourient à mon accent anglais. J'ai essayé de faire un effort. I try.
Voilà. Bien, alors donc, qu'est-ce qui...
Oui, Farida.
Alors, il nous dit aussi que, alors que la communauté, je nourris un petit peu l'observation 3, alors que la communauté éducative scientifique s'accorde pour dire que les pratiques pédagogiques basées sur des méthodes d'investigation sont les plus efficaces. On va voir. La réalité de la pratique en classe montre, dit le rapport au CAR, que dans la plupart des pays européens, l'enseignement de la science n'est pas basé sur cette approche, donc démarche d'investigation, ou encore une fois, inquiry-based science education. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans l'observation 4, ils disent qu'il y a quand même beaucoup de professeurs dynamiques, rassurez-vous. Hein, bon, on passe un petit peu la brosse à reluire. Et il y a des initiatives au niveau scolaire et périscolaire pour l'enseignement des sciences. Bon, il y a la main à la pâte, ça c'est bien connu en France, mais dans le domaine des sciences et pas des mathématiques. Puis il y a Pollen, il y a Sinus Transfer, enfin il nous énumère un petit peu tous les projets européens qui se sont développés d'ailleurs depuis que le rapport au CAR est sorti. Il y a eu des financements et par exemple en Italie, on a eu il y a 2-3 ans Ferdinando Arzarello, qui est le responsable de d'ICME, donc International Committee for Mathematics Education, et, qui en Italie a lancé un programme qui touche 20 000 écoles. Bon, donc ça c'est quand même assez remarquable, basé sur la démarche d'investigation en mathématiques. Alors je ne connais pas les résultats, il est venu il y a 2 ans et c'était en cours à ce moment-là. Alors, que nous dit encore le rapport Rocard? Bon, et puis après, on passera à autre chose. Ben, le rapport Rocard nous dit quoi? Que le passage à des méthodes essentiellement déductives, des passages de méthodes essentiellement déductives à des méthodes qui sont basées sur l'investigation. Alors, investigation, ben, il faut le comprendre dans un sens particulier, hein, bien sûr, recherche, etc. Et on va aller ce matin ce que l'on nous dit au niveau institutionnel, passer à des démarches d'investigation, à ce que nous on entend par démarche d'investigation en mathématiques, démarche d'études et de recherche en mathématiques.
Bon, on va aller progressivement vers cela, de manière à ensuite développer le stage, le contenu du stage.
Donc, il nous dit qu'il faut abandonner les méthodes déductives pour aller vers des méthodes basées sur la recherche, en quelque sorte, et que ça, c'est la meilleure façon d'accroître l'intérêt. Alors, les résultats, on ne sait pas trop, mais l'intérêt des élèves pour les mathématiques et l'étude des mathématiques. Voilà, donc il faut changer, et il faut aller vers, c'est la recommandation 2, de nouvelles formes de pédagogie, donc et en avant, investigation, etc., dans les écoles, ainsi que développement de réseaux de professeurs, bien entendu, qui vont être promus et encouragés. Je vous disais qu'effectivement, l'Union européenne avait lancé des projets, pas mal de projets au niveau européen, dont on évaluera sans doute l'impact dans quelques temps. Alors, au mois de décembre, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes si nombreux
pour cette session du stage,
la ministre de l'Éducation nationale a consacré une journée pour lancer une stratégie, ce qui s'est appelé la stratégie mathématique. Donc ici, vous avez quelques extraits du document de presse qui a été
remis à la presse ici. Voilà. Et donc, ça se passait au Palais de la Découverte. Elle était accompagnée par Villani. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages là-dessus.
Bon, alors, il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées. Bon, je n'ai pas tout repris, bien sûr. J'ai pris quelques mesures. La mesure 3, une meilleure prise en compte des recherches et des innovations menées en France et à l'étranger. Donc voilà peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes si nombreux ici, puisqu'à l'IFE, on est à la fois au niveau de la recherche et au niveau du développement. C'est-à-dire que on n'est pas, comme aime à le dire la DGESCO, la Direction Générale d'Enseignement Scolaire, hors sol, mais on est implanté dans les établissements. On vous en dira peut-être davantage. Et puis, il y a des opérations qui se mènent au niveau national aussi. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait en recherche, on essaye de l'utiliser sur le terrain de manière à améliorer l'enseignement des mathématiques, aussi bien à l'école primaire que dans l'enseignement secondaire. Donc, la mesure 3 nous indique que, on va changer les programmes, c'est sûr. Donc, vous savez au passage que le directeur de l'IFE, Michel Lussault, et aussi le président du Conseil supérieur des programmes, qui sont en train d'être élaborés à l'heure actuelle pour l'école primaire, donc aussi bien pour l'école maternelle que pour l'école élémentaire. Et puis ensuite, ça doit continuer. Donc je crois qu'à la rentrée 2015, c'est le programme de la grande section de maternelle qui va entrer en application. Et puis ensuite, CP, CE1, etc.
Avec une réforme des cycles aussi, puisqu'on va voir apparaître un cycle 4, si mes souvenirs, un cycle 3 qui va être CM1, CM2, 6e,
alors qu'auparavant, le cycle 3, c'était CE2, CM1, CM2, et puis il y aura un cycle 4 qui sera 5e, 4e, 3e. Donc il y a une réforme quand même, y compris dans l'organisation, disons, de l'éducation nationale, enfin de la manière dont les choses sont organisées. Donc, nouveau programme, certes. La formation initiale et la formation continue des enseignants gagneront à s'enrichir des recherches et des innovations menées en France et à l'étranger. Donc, là aussi, il y a un changement puisque va se développer le dispositif magistère. Donc, nous, à l'IFE, on a été sollicités pour proposer des parcours magistères. Alors, je pense que c'est surtout les parcours premier degré qui vont rentrer en application assez rapidement. Donc les parcours magistères, c'est à la fois une formation à distance et en présentiel, hein, qui va se développer.
les recherches dans le domaine de la didactique et de la pédagogie des mathématiques seront mieux diffusées. Bon, ça nous fait plaisir, on est bien contents ici. Les échanges entre universitaires et enseignants seront favorisés. Alors bon, on n'a pas attendu à l'IFE, mais parce que l'IFE, l'Institut français de l'éducation, a pris la succession de l'INRP, que les gens connaissaient bien, l'Institut national des recherches pédagogiques. Donc on est maintenant un institut intégré dans l'École normale supérieure de Lyon. Et donc, depuis fort longtemps, à l'INRP, il y avait ce que l'on appelait des recherches collaboratives, qui associaient les chercheurs de l'INRP avec des enseignants en poste sur le terrain, aussi bien primaire, secondaire,
qui étaient auparavant répartis sur tout le territoire national
et qui suivaient, qui participaient aux recherches lancées par l'INRP. Lorsque l'IFE, l'Institut français de l'éducation, a été fondé en
1er janvier 2011,
à la suite de l'INRP, on a changé le mode d'association des enseignants avec les chercheurs de l'IFE. C'est-à-dire que on a toujours des grandes opérations comme celles que je décris.
Par exemple, nous, en mathématiques, on est dans une opération qui s'appelle
PERM, Parcours d'études et de recherche en mathématiques dans l'enseignement secondaire, qui concerne 6 équipes didactiques d'IREM. Et puis, par exemple, Serge est dans une recherche qui s'appelle ACE, c'est apprentissage et compréhension à l'école élémentaire, et donc qui travaille sur le CP et le CE1 en ce qui concerne l'apprentissage du numérique,
donc le dénombrement et l'addition-soustraction, CP-CE1. Et puis,
alors qui est localisé à Marseille, Rennes, Lille et Paris, et peut-être même Clermont, Clermont non, donc Lille et Paris me fait signe. Mais il y a un chercheur à Clermont, mais il n'y a pas de réseau. Et puis, on a recentré notre collaboration avec les enseignants à travers ce qu'on a appelé des lieux d'éducation associés à l'IFE, des LEA, pour faire court, l'acronyme.
Et donc, ici, on travaille tous les trois, et puis Aurélie, qui est ici aussi, dans un LEA,
et Adriana, qui nous a rejoint aussi, dans un lieu d'éducation associé à l'IFE, qui est un collège de Marseille, où on teste ce qu'on appelle nos parcours d'études et de recherche en mathématiques au niveau du collège. Voilà. Et donc, on vous en parlera au cours de ce stage. Donc, ça, c'était quelque chose qui explicitait un petit peu les échanges entre universitaires et enseignants. Voilà, signature de convention entre les instituts de recherche, entre les IREM.
Bon, on vient tous d'IREM, ici,
et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans des IREM, dans leur académie, et les ESP, qui ont succédé aux IUFM, École supérieure du professorat et de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on voit, mais c'était dans le dossier de presse, on voit l'utilisation de problèmes ouverts. Bon, alors les problèmes ouverts, ici, on est dans l'académie de Lyon, on sait que l'IREM de Lyon a beaucoup travaillé sur les problèmes ouverts, bien sûr. Bon, donc ils ont cité les problèmes ouverts, bien. Alors, les problèmes pour chercher, je pense que ça parle beaucoup plus aux enseignants du primaire, puisque dans le programme de 2002, il y avait toute une partie qui était consacrée aux problèmes pour chercher, justement. Bon, on aimerait bien en tirer le bilan, voir ce que ça a apporté, etc. Et donc ici, vous avez un renvoi à l'Institut de recherche en mathématiques, l'IREM de Lyon, définit le problème ouvert comme une situation d'enseignement qui place l'élève dans la position d'un mathématicien confronté à un problème dont il ne connaît pas la solution. Voilà, donc là on retrouve à travers, il fallait bien l'estampiller, problème ouvert, on retrouve cette philosophie générale qui préside à ce qu'on appelle la démarche d'investigation, l'Inquiry-Based Science Education, qui est essayer de placer les élèves en position de mathématicien. Alors bien sûr, ils ne seront jamais en position de mathématicien réel, puisque en mathématiques, les problèmes sont vraiment ouverts, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la solution, alors qu'à l'école, tous les problèmes ont été résolus. Bien sûr, on n'est pas dans un labo de recherche en mathématiques,
mais on est dans une classe.
Bien sûr,
Il y a quelqu'un qui va diriger c'est le professeur.
Etc., etc. Mais on voit bien la philosophie générale, c'est-à-dire laisser de la place aux élèves pour que, à partir
de leurs connaissances actuelles, qui viennent de ce qu'ils savent en mathématiques ou de recherches dans des divers médias,
ils puissent attaquer le problème et produire la solution du problème comme une connaissance nouvelle en mathématiques.
Connaissance que nous, on va faire en sorte, pour laquelle nous, on va faire en sorte que ce soit une connaissance du programme et pas quelque chose qui pourrait être extérieur au programme ou, disons, dans l'environnement proche du programme, mais qui n'est pas le programme proprement dit, parce que
tout le monde sait que les horaires sont contraints et donc que il faut gérer ce temps et ne pas le perdre de manière à arriver à faire le programme de l'année et ne pas léser
les élèves qui seraient face à des problèmes ouverts par rapport aux autres élèves qui, eux, auraient un enseignement traditionnel.
Voilà. Donc, l'étude de problèmes ouverts ou pourcherchés s'appuyant sur des ressources variées. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça veut donc dire que dans la classe, on va faire rentrer
des ressources variées.
Alors, quelles ressources variées ? Évidemment, il y en a de diverses sortes. Il y en a une de ressources qui est bien connue, c'est le professeur. On peut toujours aller
le questionner. Il y en a une autre qui est aussi bien connue, c'est le manuel de la classe. Mais il y en a des nouvelles, bien entendu. Et là, on pense à l'Internet, on pense à la recherche sur le web,
on pense au CDI, par exemple, aussi, etc., etc. Donc, des ressources variées permettra. Et puis, des ressources variées, il y a aussi celles qui ont été conçues par les enseignants et qui sont à disposition
des professeurs.
Bon, sur le net, un petit peu partout, permettra de rendre la pratique des mathématiques plus attractive. Vous voyez qu'on a ce souci-là de faire en sorte que les mathématiques soient attractives, c'est-à-dire l'intérêt des élèves pour les mathématiques, ce que disait la commission Rocard, le rapport Rocard. Mobiliser davantage de compétences transversales. Alors, compétences transversales,
là, on est un peu dans PISA, en quelque sorte, et dans le livret de compétences, etc., les piliers, bon.
Et de stimuler le plaisir de chercher, de choisir ou de construire une méthode, de persévérer et l'envie de trouver. Bon, alors là, c'est ambitieux parce que, bon, on sait qu'il y a des élèves, parfois, dans les classes qui sont complètement éteints. Mais bon,
si on arrive à stimuler pour un plus grand nombre, ça sera peut-être une bonne chose.
Voilà. Alors, je crois, alors là j'arrive plus à manipuler ma souris, mais j'ai enlevé une diapo,
bon, qui faisait peur quand même. Je l'ai enlevée, c'était une diapo, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1998,
tout le monde était né à cette époque-là, dans la salle. En 1998, il y a eu une réforme des programmes de lycée qui rentrait, vous vous rappelez, il y a eu une réforme du lycée plutôt. Et puis après, il y a eu une réforme des programmes de lycée et il y a eu une réforme de programme de mathématiques qui est sortie en 2000. Et donc, ce qui avait été fait à cette époque-là, c'était une enquête auprès des lycéens sur les disciplines. Pas la discipline, mais les disciplines scolaires. Et donc, ça, c'était Philippe Mérieux qui avait lancé cette enquête et les professeurs principaux avaient fait passer dans les classes de seconde, première et terminale
Des questionnaires qui étaient des questionnaires plutôt ouverts.
Voilà encore autre chose. Ah, ma souris est revenue, tiens, du coup. Bon, j'ai retrouvé ma souris.
Donc, disais-je, il y avait une enquête qui avait été faite et tous les lycéens avaient été testés, mais les professeurs principaux avaient fait chaque fois pour chaque classe une synthèse. Cette synthèse était remontée au niveau académique, etc., etc.
Bon, vous voyez ça. On n'en avait rien fait de cette synthèse, mais, alors peut-être que je l'ai là, non je ne l'ai pas. Alors, mais
dans les années 2000, Roger Establé, qui est un sociologue de l'éducation bien connu, Roger Establé avait repris ces enquêtes-là et avait constitué un panel représentatif de 10 000 de ces enquêtes représentatives de la population scolaire.
Et alors, ce qu'il avait fait, alors c'est un petit livre qui est sorti aux éditions ESF,
qui s'appelle Radiographie du peuple lycéen, quelque chose comme ça. Et bref,
évidemment, comme c'était du qualitatif, et qu'Establé, il travaille beaucoup sur le quantitatif, il a essayé de transformer le qualitatif en quantitatif. Et ce qu'il avait fait, il avait compté les opinions positives et négatives par discipline.
Bon.
Et puis, il faisait le bilan. Voilà. Eh bien, voilà.
C'était pas très brillant pour les mathématiques parce qu'on arrivait à moins 46%.
Et c'était la première discipline, enfin, la discipline la plus négative, disons, après suivie de la physique-chimie et puis après de l'EPS, je crois, du sport. Bon.
Puis après, il y avait les disciplines.
Alors, bon, quand on creusait un petit peu, parce qu'il y avait ces questionnaires qualitatifs, pour les lycéens à cette époque-là, les mathématiques ne parlaient pas de la vie. Elles étaient complètement déconnectées.
Et pourquoi étudiait-on les mathématiques?
Bon, réponse des lycéens, hein, bien entendu. Ben, c'était parce que ça permet d'accéder à des filières prestigieuses qui vont vous assurer une position, un métier, une position sociale élevée, etc.
Contrairement aux filières littéraires. Voilà, grosso modo, ce qu'il en ressortait. Autrement dit,
les mathématiques, c'est utile pour les études supérieures et accéder à une profession intéressante et qui gagne bien, où on gagne bien sa vie, quoi, hein, grosso modo. Mais c'était ça qui ressortait.
Voilà. Par contre, la philo, les sciences éco pour les ES ou pour les secondes, l'histoire géo, les lettres, etc., là, c'était intéressant. Bien, c'était positif, quoi. On était dans le positif. Alors, pourquoi cette situation, pourrait-on dire?
Pourquoi cette situation?
Et donc là, on tombe dans le grand 2, puisque mon plan est en trois parties, vous avez vu qu'on est toujours dans le grand 1. Alors, diverses explications ont été fournies. Comment ça se fait que les résultats se dégradent?
Alors bon, au niveau du primaire, il y a toutes sortes d'explications qui sont fournies.
On a vu que, par exemple, ben, les PE font passer, qui ne sont pas très bons en maths, hein, parce que majoritairement,
je crois qu'il y a une enquête qui a été faite,
il y a 5% des PE qui ont une licence de mathématiques. Ah, le reste vient des lettres. Et donc,
comme il y a des formateurs en SP ici, peut-être qu'ils préparent au CRPE. Ça m'est arrivé dans le passé. On a même fait des livres avec Annie Noirfalise là-dessus. C'est pas très brillant le niveau en maths des PE quand on les récupère en UFM à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est même pas un niveau 3e pour la majorité d'entre eux. Alors évidemment, enseigner les maths sans avoir eu ces connaissances et ce recul, ça pose quelques problèmes sur la discipline. Bon, il y a ça. Alors ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par le fait que bien souvent, ça a été observé, on fait passer des fiches dans les classes, des fichiers divers et variés, là, CapMath ou autres. Et puis, ben, on est un peu en pilotage automatique à partir du fichier, sans qu'il y ait une institutionnalisation, sans qu'il y ait un enseignement. Alors là, je tire le trait au maximum, hein, pour bien montrer, mais voilà ce qui se passe. Et on arrive à 40% des élèves qui n'ont pas les élèves à la fin les niveaux à la fin du CM2, leur permettant de suivre en 6e un enseignement de mathématiques. Bon, il y a ça. Alors évidemment, quand je dis ça, je n'oublie pas que l'école ne s'autorise pas d'elle-même, mais que l'école est plongée dans la société et que si la société est malade, évidemment, ensuite, ben, on récupère les maladies à l'école, bien entendu. Et donc, selon ce que disait un didacticien de la physique il y a quelques années, l'école est davantage malade de la société que la société est malade de son école.
C'est sûr.
Plus ça se dégrade dans la société et plus il y a des conséquences au niveau de l'école.
Mais bon, quand même, j'ai chez moi un livre qui date de 1902 que j'ai trouvé dans une brocante et qui a été écrit par un inspecteur d'académie qui devait être matheux à l'origine. C'est un bouquin qui fait dans les 600 pages à peu près et c'est un bouquin de mathématiques pour la formation des instituteurs en école normale. Et je vous assure qu'il y a des maths, et des maths de bon niveau là-dedans. Voilà. Si on enseignait cela,
ça serait une bonne chose, quoi. Voilà.
Bien.
Alors, il y a ça.
Mais il n'y a pas que cette raison-là.
Alors, il y a d'autres raisons qui ont été avancées.
Alors, ici, bon, cette situation trouve ses origines, entre autres raisons, dans la façon dont la science est enseignée. Autrement dit, on fait porter le poids sur les enseignants. Mais Daniel Duvernay, que certains d'entre vous connaissent parce qu'il écrit des bouquins pour Mathsup, il a regardé un petit peu ce qui s'est passé en France dans l'enseignement au niveau des horaires d'enseignement des mathématiques. Et vous voyez qu'il y a une rupture en 1994, et là, en 1995. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est la fusion des trois séries C, S et E, C, D et E, en une seule, la filière S, avec la spécialité maths, SVT, physique ou sciences de l'ingénieur,
à ce moment-là. Et regardez, voilà les courbes, là. Donc, ici, la courbe entrée plein, ce sont les élèves qui ont au moins 7h30 de mathématiques par semaine. Et donc, vous voyez qu'elle monte. On arrive en 1994 à 73 700 élèves qui avaient 9 heures de maths par semaine. Et puis là, on a la dégringolade, quoi. Bon, voilà. Alors maintenant, les élèves qui ont au moins 7h30, ils sont aux environs. Alors là, ça s'arrête à 2004. Hein. Je n'ai pas les chiffres, il n'a pas sorti. Mais on voit qu'il y a cette dégringolade qui se passe. Seulement 35 900 élèves ont 7h30 de mathématiques par semaine. Par contre, quand on voit la courbe en pointillé qui est ici, au plus 6 heures de mathématiques par semaine. Et donc, il avait calculé qu'un élève qui suit le cursus de la 6e à la terminale actuelle, si on le réfère à un élève qui suivait le cursus de la 6e à la terminale C, c'est-à-dire seconde C, première C, terminale C, tel que ça existait, tel que nous on l'a connu, hein, pour les matheux de la salle, eh bien, il y a une année de mathématiques de perdu, en heure. Alors évidemment, moins on enseigne, moins les élèves en savent. Ça, bon, c'est un théorème basique, mais bon, on n'y échappe pas. Donc, vous rappelez du ministre Allègre, hein, dont on a gardé un souvenir cuisant de son passage à au gouvernement. Bon, il y en avait contre les mathématiques, sans doute il n'avait pas bien digéré, mais il en avait aussi contre la physique, parce qu'il ne savait pas que la loi de la gravitation, si vous lâchez, quelle que soit la masse de l'objet, si vous lâchez à une certaine hauteur, les deux objets, une feuille de papier ou une bille en plomb, arriveront au sol en même temps.
Ça, il ignorait
aussi. Mais bon, passons, on ne peut pas être bon en tout, mais quand on est ministre, il faut quand même être un petit peu plus instruit ou alors se taire.
Alors, d'autres choses. Bon, ça a été enregistré, hein, là, on va me...
Je sens que je vais avoir des mesures de rétorsion, mais bon, peu importe.
Alors, autre document.
Autre document, c'est un document qui vient de l'UNESCO,
qui s'appelle, alors lui, date de 2011, et qui s'appelle « Les défis de l'enseignement des mathématiques dans l'éducation de base », autrement dit,
le socle, hein, pour parler rapidement.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors lui, c'est du qualitatif.
L'enseignement des mathématiques est trop souvent encore un enseignement peu stimulant.
Bon, vous allez voir, là on s'en prend plein la figure.
Conçu comme un enseignement formel, centré sur l'apprentissage de techniques,
la mémorisation de règles,
dont la raison d'être ne s'impose pas aux élèves. Voilà ce qu'il dit. Donc, on ne sait pas très bien à quoi servent les maths, quoi. Grosso modo, mais il faut le faire.
Mémorisez, apprenez des règles, et puis vous passerez vos examens, mais cherchez pas à comprendre.
Dans lequel les objets mathématiques sont introduits sans qu'on sache à quel besoin ils répondent. Alors nous, on a pris
exactement, évidemment, l'inverse. On essaye de faire en sorte que les raisons d'être des objets mathématiques soient rencontrées par les élèves et que les élèves sachent à quel besoin ils répondent.
Comment ils s'articulent au préexistant?
C'est-à-dire qu'on a des enseignements découpés en chapitres qui sont peu connectés les uns des autres.
Voilà ce qu'on nous dit.
Alors, bon, le lien avec le monde réel est faible.
Ou alors il est artificiel.
C'est-à-dire que, bon, il est tellement artificiel qu'il convainc personne, y compris pas les élèves. Les applications sont stéréotypées. Il n'y a pas de pratique expérimentale.
Peu.
Alors là, il y a quelque chose d'assez remarquable, mais on le rencontrera peut-être cet après-midi, c'est la contradiction entre le document,
le programme commun de collège qui parle de la démarche d'investigation, qui est commun à maths, biologie, physique, chimie, technologie, qui dit que la démarche expérimentale, c'est pour les sciences et la techno, et pour les maths, c'est la résolution de problèmes. Et qui est en pleine contradiction avec le chapeau du programme de 5e de maths, qui dit que la dimension expérimentale devait être privilégiée. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes rédacteurs.
Bon, alors, il faut être un peu schizophrène et jouer sur les deux tableaux, etc.
Je vous signale que Daniel Perrin, qui n'est pas le premier venu en mathématiques, a écrit un article dans la revue Petit X dans lequel il dit que la dimension expérimentale, lui, il la pratique et elle est première pour lui dans la résolution de problèmes de recherche en mathématiques.
Ah, donc, voilà. Alors, les activités de modélisation, évidemment, les maths, c'est de la modélisation continuellement.
La technologie, là, on utilise peu les TICE, grosso modo, voilà ce qu'il nous dit. Les élèves ont peu d'autonomie et ils sont cantonnés dans des tâches de reproduction, quoi, d'application, etc., mais pas dans des tâches, disons, problèmes ouverts où ils vont construire des mathématiques. Bon, je vous en donne encore un peu.
Et puis après, on arrêtera pour pas vous démoraliser complètement. Et alors, ce que dit aussi ce document, c'est que, bien sûr, les profs, ils essayent de changer et d'améliorer, etc. Mais ce document nous dit que lorsque les professeurs proposent aux élèves des problèmes plus ouverts censés induire une démarche d'investigation, les résultats ne sont pas nécessairement satisfaisants.
Eh bien voilà, donc vous êtes venus pour rien ici.
Voilà. Alors, ce qui est observé, c'est une activité des élèves qui est, même quand elle est complètement bien ciblée au niveau mathématique, bien sûr, est difficilement exploitée par l'enseignant s'il n'y est pas spécifiquement formé. Et là, on retombe évidemment sur le problème majeur du système éducatif français, qui est la formation des enseignants. Formation initiale qui se fait grosso modo en un an, en Master 2 actuellement, en ce qui concerne l'apprentissage du métier, puisqu'avant on prépare le CAPES, donc on fait des maths, et la formation continue qui est quasiment inexistante, comme chacun sait. Voilà. Alors, il nous dit que, évidemment, qu'est-ce que ça va nécessiter, la démarche d'investigation? Ça va nécessiter des enseignants capables de les former,
capable de faire face à l'imprévu et d'identifier le potentiel mathématique d'idées et de production d'élèves.
Bon, voilà. Il requiert des enseignants capables d'aider les élèves à relier les résultats. Bon, on est en plein dans ce que l'on va faire tout au long de ce stage-là, relier les notions. Voilà. Tout cela renvoie à la question incontournable, nous dit le document, de la formation des enseignants et des ressources mise à disposition de ces derniers pour leur permettre de faire évoluer leurs pratiques.
Alors, ces pratiques, quelles sont-elles? Alors là, j'ai pris un exemple caricatural, mais quand même assez révélateur de ce qui se passe dans les classes.
Alors dans les classes, on y va et on filme et on sait ce qui se passe dans les classes.
Alors, je n'ai pas pris ce qui se passe dans les classes, mais j'ai pris
ce qui se passe dans les livres.
Et comme ce qui se passe dans les livres est souvent transmis
quasiment intégralement, enfin tout au moins la philosophie est la même dans les classes, on a un bon indicateur de ce qui se passe dans les classes.
Alors, j'ai pris un vieux bouquin de 5e, enfin qui n'a plus cours.
Je me suis couvert parce qu'il y a peut-être des auteurs de manuels dans la classe, dans la salle.
pas dans la classe, mais dans la salle. Voilà, alors, voilà ce que j'ai trouvé sur le cercle circonscrit au triangle en 5e.
Alors, je l'ai recopié, j'ai pas fait de copie d'écran. Comme ça, vous trouverez pas d'où ça vient.
Ou de pas de copie d'écran, mais de scan plutôt, puisque c'est un manuel.
Alors voilà, on est en 5e, et c'est un phénomène qui a été identifié en mathématiques qui s'appelle l'ostension déguisée. Alors l'ostension déguisée, c'est quoi?
Quand vous faites un cours magistral, ce que plus personne ne fait, sauf moi ici,
en ce moment. Quand on fait un cours magistral,
ben, on montre les choses, des connaissances mathématiques à un public, à la classe. Bon, et on a encore ça à l'université, en bas de l'amphi, bon, on gratte sur le tableau et on a un cours magistral avec un tiers de l'amphi qui suit pas, qui est sur l'internet, qui communique avec ses copains par mail, etc., dans le reste de l'amphi.
Mais bon, ça se passe comme ça.
Hein, personne n'est dupe, bien sûr.
Bien, donc on montre, on fait de l'ostension assumée. Et l'ostension déguisée, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux. Parce que vous allez montrer l'ostension déguisée, vous allez montrer les choses aux élèves, mais en leur laissant croire que ce sont eux qui le trouvent. Donc ça, c'est pervers, vous voyez, on déguise le fait qu'on le montre, en quelque sorte.
Alors voilà ici une activité que j'aime bien. Alors, vous imaginez...
Bon, j'ai pas de tableau là, je vais pas écrire, mais bon.
Vous avez trois points LMN qui sont pas alignés, donc on demande aux élèves de faire ça, quoi, de marquer les points alignés, de tracer les droites D et delta qui sont les médiatrices respectives des segments LM et MN.
Bon, on trace les médiatrices de deux côtés d'un triangle. Elles se coupent. Bon, déjà, il faudrait le démontrer. Mais bon, passons. Elles se coupent. Bien, on le voit.
On va admettre que c'est vrai tout le temps. Recopie et complète et justifie. Petit A. A est sur l'A. Et là, on a les pointillés qui apparaissent, vous voyez ? Bon, on est dans le bled, quoi, en quelque sorte, complète avec E, ET ou E, EST, ou accent, ou sans accent. Vous vous rappelez des cours de grammaire de l'école primaire. A est sur l'A du segment, maman. Bon, donc, alors, il faut compléter. Bon,
alors là, moi, je fais l'idiot, j'aime bien le faire. Et là, là étant féminin, d'accord ?
C'est pas sur la longueur du segment, un point sur une longueur.
Bon, je suis pas trop mauvais en maths, je sais qu'un point, bon.
Alors, où il est ce A ? Ben, on me l'a dit, il est à l'intersection. Donc, je remplis médiatrice. Et il est sur la médiatrice du segment, bon, ben, il y en a deux. Donc, je sais pas encore si je vais mettre LM ou MN. Bon, j'attends. Donc, point A égale M point. Alors là, ben, je sais toujours pas, parce que M, il est dans LM et dans MN. Donc, vous voyez, je fais un peu de logique, quoi, mais des maths, pas trop. Donc, AL égale à N. Ah, bon, voilà le point L qui apparaît. Donc, peut-être que je vais prendre le segment LM. D'accord ? Allez, je peux compléter. A est sur la médiatrice du segment LM. Donc, LA égale ML. Bon. Parce que j'ai la solution, en plus. Hein, vous avez AL égale M. Bon. Ah, et sur là, je recommence. Bon, ben, il y a deux médiatrices que j'en ai épuisé une, il en reste plus qu'une autre. Donc, ça va. Maintenant, je remplis. Donc, sur la médiatrice du segment, j'avais pris LM, donc je prends MN. Donc, MN égale NA. Et ça y est, j'ai ça. Le A. Bon, le A. Qu'est-ce que ça peut bien être que le A ?
C'est évidemment un point. Donc, je mets point.
Le point A est donc sur là du... voilà. La médiatrice du segment, LN. Ah bon, le cercle de centre A est passant par M, passe aussi par...
Bon, ben, évidemment, il passe par les deux autres points, parce qu'un cercle,
ça passe par des points en règle générale, et pas par des segments, ou par des droites, ou par des médiatrices. Donc, par élimination,
ça ne peut être que des points. Voilà, j'ai fait mon activité, moi élève.
Et alors, ce qui est admirable là-dedans,
c'est le commentaire, parce que... Si j'ai bien compris, on nous a fait tracer le cercle circonscrit au triangle, d'accord ? Bon. Mais ça, est-ce que les élèves l'ont vu ?
Ça, on ne sait pas. Mais les médiatrices des trois côtés passent par un même point,
elles sont concourantes.
Voilà la conclusion. C'est-à-dire que le cercle circonscrit, il a disparu de ce qui va rester, quoi,
en quelque sorte, de cette activité. Voilà.
Alors, là, c'est caricatural, mais je vous assure que j'ai trouvé ça dans un livre de 5e qui était largement utilisé dans les années 90. Voilà. Et donc, prenez des manuels, vous allez voir qu'on n'est pas très loin de ce truc caricatural. On n'est pas loin, hein, vraiment. Voilà, voilà, voilà à peu près où on en est. Alors, bien sûr, quand les élèves sont réduits à ça... Ben, est-ce qu'ils font des mathématiques ? Bien sûr, là, j'ai joué l'idiot, et donc, je vous ai vu qu'on pouvait très bien répondre à cette activité sans faire un brin de mathématiques dans cette histoire. Donc, font-ils des maths ? Non. Alors, quand vont-ils faire des mathématiques ? Ben, quand ils vont résoudre des exercices et des problèmes.
Pour les meilleurs d'entre eux,
ou les plus curieux,
c'est le moment où ils vont réviser leur cours. Ah, donc, ce qu'on m'a fait faire dans cette activité,
ça permettait de trouver alors le truc, la position du puits ou de la gare à égale distance des trois villes, etc. Ça permettait donc de retrouver le centre d'un cercle lorsqu'on l'a perdu en traçant les médiatrices des cordes. Ça permettait... Voilà. Bon, ça, c'est ceux qui vont devenir bons en maths, quoi, qui se posent des questions. Les autres,
ils sont scolaires, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, en se faisant aider plus ou moins, en regardant, voilà. Puis après, ils trouvent que les maths, c'est un peu insensé, quoi. On ne sait pas très bien à quel jeu on veut nous faire jouer.
C'est pareil avec le théorème de Pythagore. Si vous faites découper des carrés, colorier, découper,
c'est quoi le théorème de Pythagore ? C'est un théorème sur les aires des carrés des côtés d'un triangle rectangle.
Oui, mais à quoi il sert ? C'est ça, le fondement du théorème de Pythagore. Il sert à calculer des côtés dans un triangle rectangle quand on en connaît deux. Bon, donc il sert à calculer des distances, par exemple, inaccessibles.
Bon, voilà. Là, ça, est-ce qu'on le fait vivre dans les classes ? Non. Si bien que, anecdote d'une de mes collègues, que j'ai plaisir à raconter, qui est prof de maths, sa fille était en quatrième, et donc elle butait sur un problème.
Bon, donc elle demande à sa maman, qui lui dit, tu vois pas que c'est le théorème de Pythagore qu'il faut appliquer ?
Bon, et la petite dit, mais non, le théorème de Pythagore, c'est des carrés dessinés sur les côtés du triangle rectangle.
Donc elle ne savait pas, elle n'avait pas fait le lien avec le calcul de la longueur d'un côté, ou je sais pas trop quoi, la diagonale de l'armoire pour que ça passe la porte. Enfin, vous connaissez tous ces trucs, tous ces problèmes-là. L'application du théorème de Pythagore. Voilà. Voilà à peu près, voilà une explication parmi beaucoup d'autres.
Je redis que l'école est davantage malade de la société que la société est malade de son école.
C'est évident, quoi. Voilà. Bon, une des explications sur les phénomènes que je vous ai montrés.